Chapitre 13 et 14 La lèpre. Responsabilité du sacrificateur. De toutes les fonctions que, d'après la loi de Moïse, le sacrificateur avait à remplir, aucune n'exigeait une attention plus patiente que la constatation et le traitement convenable de la lèpre. Deux choses exigeaient sa sollicitude vigilante. La pureté de l'assemblée, et la grâce qui ne pouvait admettre l'exclusion d'une personne quelconque, à moins de motifs bien clairement déterminés. La sainteté ne pouvait permettre qu'un homme devant être exclu demeure dans la congrégation. Et d'un autre côté, la grâce ne voulait pas que soit mis dehors celui qui devait être dedans. C'est pourquoi le sacrificateur avait besoin de vigilance, de calme, de sagesse, de patience et d'une grande expérience. Certaines choses pouvaient paraître de peu d'importance, tout en étant réellement très graves, et d'autres pouvaient ressembler à la lèpre sans l'être du tout. Un jugement précipité, une conclusion trop prompte, pouvait entraîner les plus sérieuses conséquences, soit pour l'assemblée, soit pour un individu. C'est ce qui explique la fréquente répétition d'expressions telles que « le sacrificateur verra ». Le sacrificateur fera enfermer pendant 7 jours celui qui a la plaie, et le sacrificateur le verra le 7e jour. Le sacrificateur le fera enfermer pendant 7 autres jours, et le sacrificateur le verra pour la 2e fois, le 7e jour. On ne devait juger ou décider d'aucun cas avec précipitation. Pour se former un jugement sain sur chaque cas, le sacrificateur ne devait pas se laisser guider par ses propres pensées, ses propres sentiments, ou sa propre sagesse. Il avait d'amples directions dans la parole et avait à s'y soumettre. Chaque détail, chaque variation, chaque nuance et chaque symptôme particulier, tout était prévu avec une prévoyance divine, en sorte que le sacrificateur n'avait qu'à bien connaître la parole et à s'y conformer en tout point pour éviter des milliers d'erreurs. Considérons maintenant la maladie de la lèpre se développant dans un individu, dans un vêtement ou dans une maison. Au point de vue physique, rien ne pouvait être plus repoussant que cette maladie, et comme elle était tout à fait incurable quand il s'agissait d'un homme, elle offre une peinture vivante et effrayante du péché en nous, du péché dans nos circonstances et du péché dans une assemblée. La lèpre dans un homme. Tandis que les principes généraux de la lèpre et de sa purification s'appliquent, dans un sens secondaire, à tout pécheur, cependant dans la portion de l'Écriture qui nous occupe, le sujet est présenté en rapport avec ceux qui étaient le peuple reconnu de Dieu. L'individu que l'on voit ici soumis à l'examen du sacrificateur appartient à l'Assemblée de Dieu. Il est bon de comprendre cela. L'Assemblée doit être conservée pure parce que c'est son habitation. Aucun lépreux ne peut demeurer dans l'enceinte sacrée de la demeure de l'Éternel. Ainsi, la lèpre dans un individu représente l'action du mal ou ce qui pouvait paraître mal chez quelques membres de l'assemblée. C'est une affaire importante qui demande la plus grande vigilance et toute la sollicitude de la part de ceux qui ont à cœur le bien des âmes et la gloire de Dieu. Car lui-même est intéressé au bien-être et à la pureté de son assemblée comme corps, et de chacun de ceux qui la composent. Le sacrificateur devait donc veiller, de peur que quelque chose qui n'était pas la lèpre ne soit traité comme lèpre, ou que quelque chose qui était réellement la lèpre ne soit toléré. Certaines affections pouvaient paraître dans la peau, la place de la manifestation, comme une plaie de lèpre, et après une soigneuse investigation, se trouvaient n'être que superficielles. Un bouton apparaissant à la surface n'était pas forcément une souillure. Et pourtant, ce qui n'était qu'un bouton superficiel pouvait devenir quelque chose de plus profond que la peau. Il y a là une riche instruction pour nous. Il faut faire une différence entre les infirmités personnelles et l'énergie positive du mal, entre les imperfections de la conduite et l'activité du péché. Sans doute, il importe de veiller sur nos infirmités, car si nous ne sommes pas sur nos gardes à leur égard, et si nous ne les jugeons pas, Elles peuvent devenir la source d'un mal positif. Chapitre 13, versets 14 à 28. Tout ce qui est de notre nature doit être jugé et éliminé. Nous ne devons avoir aucune indulgence pour les infirmités personnelles qui sont en nous-mêmes, quoique nous devions en avoir beaucoup pour celles qui sont chez les autres. Passons par exemple à un caractère irritable. Chez moi, je dois le juger. Chez un autre, je dois l'excuser. Semblable à la tumeur blanche, dans le cas de l'Israélite, versets 19 et 20, il peut devenir la source d'une vraie souillure. Toute faiblesse, quel qu'en soit le caractère, doit être surveillée, de peur qu'elle ne devienne une occasion de péché. Une tête chauve n'était pas de la lèpre, mais la lèpre pouvait s'y déclarer, et par conséquent il fallait y prendre garde. Il peut y avoir mille choses qui ne sont pas coupables en elles-mêmes, mais qui peuvent devenir une occasion de péché. Et il ne s'agit pas seulement de ce qui, de la vie générale, est nommé défaut et infirmité personnelle, mais même de ce dont nos cœurs pourraient être disposés à se glorifier. L'humour, la vivacité d'esprit peuvent devenir source de souillure. Chacun a quelque chose dont il doit se garder. Nous allons voir maintenant ce qu'on faisait dans chacun des cas où la plaie de la lèpre était indubitablement reconnue. Le Dieu d'Israël pouvait supporter les infirmités, les défauts et les taches. Mais du moment que le cas devenait un cas de souillure, qu'elle fût à la tête, à la barbe, au front ou ailleurs, elle ne pouvait être tolérée dans la Sainte Assemblée. Et le lépreux en qui sera la plaie aura ses vêtements déchirés et sa tête découverte, et il se couvrira la barbe, et il criera « Impur, impur !» Tout le temps que la plaie sera en lui, il sera impur, il est impur, il habitera seul, son habitation sera hors du camp. Chapitre 13, versets 45 et 46. Que pouvait-il y avoir de plus humiliant, de plus accablant que cela? Il habitera seul. Il était indigne de la communion et de la société de ses semblables. Il était exclu du seul endroit dans le monde entier où la présence de l'Éternel était connue et goûtée. Il est important d'observer la suite des dispositions qui devaient être prises envers le lépreux lorsque les symptômes apparaissaient. Il n'y avait ni hâte, ni indifférence. Dieu entre toujours en jugement d'un pas lent et mesuré, mais quand il y entre, il faut qu'il agisse selon les droits de sa nature. Il peut examiner avec patience. Il peut attendre 7 jours. Et si la plus légère amélioration se montre dans les symptômes, il peut attendre 7 autres jours. Mais dès le moment où il est prouvé que c'est bien l'action de la lèpre, il ne peut plus y avoir de tolérance. Son habitation sera hors du camp. Lecteur, voyez dans le lépreux solitaire le type frappant de celui en qui travaille le péché. C'est vraiment là ce que cela signifie. Ce n'est pas, comme nous le verrons bientôt, un pécheur dont le péché et la misère sont entièrement découverts et qui, par conséquent, est un sujet bien qualifié pour l'amour de Dieu et pour le sang de Christ. Non, nous voyons dans le péché mis à l'écart un homme en qui le péché agit, un homme en qui le mal se développe. C'est là ce qui souille, ce qui exclut de la jouissance de la présence de Dieu et de la communion des saints. Aussi longtemps que le péché agit, il ne peut y avoir de communion ni avec Dieu ni avec son peuple. Il habitera seul. Son habitation sera hors du camp. Jusqu'à quand? Pendant tout le temps que la plaie sera en lui. Il ne peut y avoir de communion tant que l'énergie du mal est là. Un homme tout couvert de lèpre. Ceci nous amène à un point des plus intéressants en rapport avec le lépreux, à un point qui doit paraître un vrai paradoxe à tous, sauf à ceux qui comprennent la manière dont Dieu agit envers les pécheurs. Si la lèpre fait éruption sur la peau, et que la lèpre couvre toute la peau de celui qui a la plaie, de la tête aux pieds, autant qu'en pourra voir le sacrificateur le verra. Et voici, la lèpre a couvert toute sa chair. Alors, il déclarera pur celui qui a la plaie, il est tout entier devenu blanc, il est pur. Chapitre 13, versets 12 et 13. Du moment qu'un pécheur est à sa vraie place devant Dieu, la question tout entière est réglée. Dès que son véritable caractère est pleinement manifesté, il n'y a plus de difficulté. il peut avoir à passer par de pénibles expériences avant d'en arriver là, expérience résultant de son refus de prendre sa véritable place. Mais dès l'instant où il est amené à confesser toute la vérité sur ce qu'il est, la grâce de Dieu coule jusqu'à lui. Quand je me suis tu, mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour. Car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été. Psaume 32, versets 3 et 4. Combien de temps ce pénible état a-t-il duré? Jusqu'à ce que tout ce qui travaillait à l'intérieur soit venu ouvertement à la surface. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Verset 5. Si la lèpre a couvert toute sa chair, alors il le déclarera pur. La plus petite tache de lèpre était intolérable aux yeux de Dieu. Et cependant, quand l'homme tout entier en était couvert de la tête aux pieds, il était déclaré net. Il était un sujet qualifié pour avoir part à la grâce de Dieu et au sang de l'expiation. Il en est toujours de même avec le pécheur. Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Habacuc 1, verset 13. Et cependant, dès qu'un pécheur prend sa véritable place comme étant complètement perdu, coupable et souillé, toute la question est immédiatement résolue. La grâce de Dieu a affaire avec des pécheurs. Et quand je me reconnais pécheur, je me reconnais comme l'un de ceux que Christ est venu sauver. Plus quelqu'un me prouvera clairement que je suis un pécheur, plus il établira clairement mon droit à l'amour de Dieu et à l'œuvre de Christ. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu. 1 Pierre 3, verset 18. Or, si je suis injuste, je suis un de ceux pour lesquels Christ est mort, et j'ai droit à tous les bienfaits de sa mort. Cela ne demande aucun effort quelconque. Je ne suis pas appelé à être en quoi que ce soit différent de ce que je suis. Je ne suis pas appelé à sentir, à expérimenter, à réaliser quoi que ce soit. La parole de Dieu m'assure que Christ est mort pour moi, tel que je suis. Je suis aussi en sûreté qu'il l'est lui-même. Il m'a introduit dans une nouvelle position, en association avec lui-même. Et c'est là que je me tiens devant Dieu, délivré de toute imputation de péché et de toute crainte de jugement. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, Agneau de Dieu, je viens. Comment puis-je savoir que son sang a été versé pour moi? Par les Écritures. Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes. 1 Pierre 3, verset 18. J'ai des péchés? Je suis injuste. Donc la mort de Christ s'applique à moi, comme si j'étais le seul pécheur sur la terre. Il ne s'agit pas de mes sentiments. Bien des âmes se tourmentent là-dessus. Que de fois n'entend-on pas des expressions telles que celle-ci? Oh, je crois que Christ est mort pour les pécheurs, mais je ne peux pas réaliser que mes péchés sont pardonnés. Je ne peux pas m'appliquer, je ne peux m'approprier, je ne peux expérimenter le fait de la mort de Christ. Tout cela est du moi, et non pas de Christ. C'est le sentiment, et non l'écriture. L'évangile s'applique à tous ceux qui se reconnaissent perdus. Christ est mort pour les pécheurs. C'est précisément ce que je suis. Donc, il est mort pour moi. Comment est-ce que je le sais? Est-ce parce que je le sens? Non, mais par le témoignage de la parole de Dieu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Ainsi, tout est selon les Écritures. Si c'était selon nos sentiments, nous serions bien misérables, car nos sentiments sont rarement les mêmes pendant un jour tout entier. Mais les Écritures sont toujours les mêmes. Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux. Tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Psaume 119, verset 89 et 138, verset 2. Sans doute, c'est très heureux de réaliser, de sentir et d'expérimenter. Mais si nous mettons ces choses à la place de Christ, nous n'aurons ni ces choses, ni le Christ qui les donne. Si je suis occupé de Christ, je serai heureux, mais si je mets mon bonheur à la place de Christ, je n'aurai ni l'un ni l'autre. C'est la triste condition morale de milliers de gens. Au lieu de se reposer sur l'inébranlable autorité des Écritures, ils regardent toujours à leur propre cœur, ce qui fait qu'ils sont toujours incertains et par conséquent toujours malheureux. Un état de doute est un état de torture. Mais comment puis-je sortir de mes doutes? Tout simplement en croyant à la divine autorité des Écritures. Elle déclare que Christ est mort pour nos péchés et qu'il a été ressuscité pour notre justification. Romains 4, verset 25. Cela règle tout. La même parole qui me dit que je suis injuste me dit aussi que Christ est mort pour moi. Rien ne peut être plus clair. Si je n'étais pas injuste, la mort de Christ ne serait pas pour moi du tout. Mais puisque je suis injuste, elle est ce qu'il me faut et s'applique divinement à moi. Si je suis occupé de quoi que ce soit en moi-même, il est clair que je n'ai pas saisi toute l'application spirituelle de Lévitique 13, versets 12 et 13. Je ne suis pas venu à l'agneau de Dieu tel que je suis. C'est quand le lépreux est couvert de lèpre de la tête aux pieds qu'il est comme il doit être. C'est alors et alors seulement que la grâce peut le rencontrer. Le sacrificateur le verra, et voici, la lèpre a couvert toute sa chair. Alors il déclarera pur celui qui a la plaie. Il est tout entier devenu blanc. Il est pur. Précieuse vérité. Où le péché abondait, la grâce a surabondé. Aussi longtemps que je pense qu'il y a une seule place qui ne soit pas couverte par l'affreuse maladie, je n'en ai pas fini avec moi-même. C'est quand mon véritable état m'est complètement dévoilé que je comprends réellement ce que veut dire le salut par grâce. Nous comprendrons mieux la force de tout cela lorsque nous en viendrons à considérer les ordonnances relatives à la purification du lépreux au chapitre 14 de notre livre. La lèpre dans un vêtement. Ce sujet est traité dès le verset 47. Le vêtement suggère à l'esprit l'idée des circonstances ou des habitudes d'un homme. C'est un point de vue éminemment pratique. Nous devons être en garde contre le développement du mal dans nos voies tout autant que contre le mal en nous-mêmes. Nous voyons la même investigation patiente à l'égard d'un vêtement que dans le cas d'une personne. Il n'y a ni précipitation ni indifférence. Le sacrificateur verra la plaie et il fera enfermer pendant 7 jours l'objet où est la plaie. Verset 50. Le mal peut se glisser de mille manières dans nos habitudes et dans nos circonstances. C'est pourquoi, dès que nous apercevons quoi que ce soit de suspect, nous devons le soumettre à une investigation calme et patiente. Et le 7e jour, il verra la plaie. Si la plaie s'est étendue dans le vêtement, soit dans la chaîne, soit dans la trame, soit dans la peau, dans un ouvrage quelconque qui a été fait de peau, la plaie est une lèpre rongeante, la chose est impure. Alors, on brûlera le vêtement. Verset 51. La mauvaise habitude doit être abandonnée à l'instant où je la découvre. Si je me trouve dans une mauvaise position, je dois la quitter. L'action de brûler le vêtement exprime le jugement du mal. Il ne faut pas jouer avec lui. Dans certains cas, le vêtement devait être lavé, ce qui exprime l'action de la parole de Dieu. Le sacrificateur commandera qu'on lave l'objet où est la plaie et le fera enfermer pendant 7 autres jours. Verset 54. Il faut une attente patiente pour s'assurer des effets de la parole. Et le sacrificateur verra, après que la plaie aura été lavée, et voici la plaie n'a pas changé d'aspect. Verset 55. Quand il y a quelque chose de radicalement et d'irrémédiablement mauvais dans notre position ou dans nos habitudes, nous n'avons pas autre chose à faire qu'à y renoncer entièrement. Et si le sacrificateur regarde, et voici la plaie s'efface après avoir été lavée, alors on l'arrachera du vêtement. Verset 56. La parole peut produire assez d'effet pour que ce qui est mauvais soit abandonné et qu'ainsi le mal soit ôté. Mais si malgré tout le mal continue, il doit être, avec tout ce qui s'y rattache, entièrement condamné et mis de côté. Nous devons bien prendre garde à la position que nous occupons, aux circonstances dans lesquelles nous sommes, aux habitudes que nous contractons, au caractère que nous prenons. tout symptôme suspect doit être soigneusement surveillé, de peur qu'il ne se change plus tard en lèpre rongeante ou faisant irruption, par laquelle nous-mêmes ou beaucoup d'autres nous serions souillés. Nous pouvons nous trouver dans une position à laquelle sont attachées certaines choses mauvaises qui peuvent être abandonnées sans abandonner entièrement cette position. Mais nous pouvons aussi nous trouver dans une situation où il est impossible de demeurer avec Dieu. Si notre œil est simple, le chemin sera tout tracé. Si le réel désir de notre cœur est de jouir de la présence divine, nous découvrirons aisément quelles sont les choses qui tendent à nous en priver. Recherchons une plus grande intimité avec Dieu et gardons-nous soigneusement de toute forme de souillure, soit dans nos personnes, soit dans nos habitudes, soit dans nos relations. La purification du lépreux. Nous abordons maintenant les ordonnances relatives à la purification du lépreux. Il s'agit de purification cérémonielle pour un lépreux guéri de sa plaie. Chapitre 14, verset 3. Nous y trouvons en type quelques-unes des vérités les plus précieuses de l'Évangile. L'Éternel parla à Moïse, disant « C'est ici la loi du lépreux, au jour de sa purification. Il sera amené au sacrificateur, et le sacrificateur sortira hors du camp. » Chapitre 14, verset 1 à 3. Nous avons déjà vu quelle place le lépreux occupait. Il était hors du camp, à distance de Dieu, de son sanctuaire et de son assemblée. En outre, il demeurait dans la solitude, dans une condition de souillure. Il était privé de tout secours humain, et, quant à lui-même, il ne pouvait que communiquer la souillure à tout ce qu'il touchait. Il était donc impossible qu'il puisse faire quoi que ce soit pour se purifier. Tout devait être fait pour lui. Il ne pouvait se frayer un chemin jusqu'à Dieu, mais Dieu pouvait se frayer un chemin jusqu'à lui. Sa seule ressource était en Dieu. Il devait être débiteur de la grâce pour toute chose. C'est pourquoi nous lisons « Le sacrificateur sortira hors du camp ». Dans le sacrificateur sortant, pour ainsi dire, du domicile de Dieu, nous voyons le Seigneur Jésus descendant du sein du Père, sa demeure éternelle, sur notre terre souillée. Semblable au bon Samaritain, il vint à nous là où nous étions. Il ne vint pas seulement à mi-chemin. Il ne fit pas seulement les 9/10 de la route de notre côté. Il fit tout le chemin. C'était indispensable. Il pouvait créer les mondes par sa parole, mais quand il s'agissait de purifier des pécheurs, il fallait quelque chose de plus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. 1 Jean 4, versets 9 et 10. Mais l'envoi et l'incarnation du Fils étaient loin d'être tout ce qu'il fallait. L'effusion du sang était absolument nécessaire pour que le lépreux soit purifié. Il fallait la mort d'une victime sans tache. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Hébreux 9, verset 22. Les deux oiseaux. Le sacrificateur commandera qu'on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, et du bois de cèdre, et de l'écarlate, et de l'hysope, et le sacrificateur commandera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Versets 4 et 5. Dans l'oiseau qu'on égorge sur l'eau vive, nous avons le type de la mort de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache. Il a été crucifié en infirmité. Hébreux 9, verset 14, 2 Corinthiens 13, verset 4. L'œuvre la plus grande, la plus importante, la plus glorieuse qui ait jamais été opérée dans le vaste univers de Dieu a été marquée par l'infirmité. Quelle terrible chose le péché doit-il être au jugement de Dieu pour que son Fils unique ait dû descendre du ciel et être cloué sur le bois maudit. Et quel type du péché nous avons en la lèpre? Qui aurait pensé que cette petite tumeur blanche paraissant sur une personne ait d'aussi graves conséquences? Mais lorsque l'énergie du mal se manifeste, elle est l'indice de l'affreux travail du péché dans la nature de l'homme. Et pour qu'il puisse être réconcilié avec un Dieu saint, le Fils de Dieu a dû quitter les cieux et subir une mort ignominieuse. Le péché est une chose terrible au jugement de Dieu. Il ne saurait tolérer même une seule pensée coupable. Pour qu'une telle pensée puisse être pardonnée, Christ a dû mourir sur la croix. Le plus petit péché, si un péché quelconque peut être appelé petit, ne demandait pas moins que la mort du Fils éternel de Dieu. Mais, gloire à Dieu, ce que le péché exigeait, l'amour rédempteur l'a gratuitement donné. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra et le bois de cèdre et l'écarlate et l'hysope et il les trempera, ainsi que l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive, et il fera aspersion 7 fois sur celui qui doit être purifié de la lèpre, et il le purifiera, puis il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Versets 6 et 7. Le sang étant répandu, le sacrificateur peut entrer immédiatement et pleinement dans son œuvre. Jusqu'ici, nous lisions, le sacrificateur commandera, mais maintenant il agit lui-même. La mort de Christ est la base de son service sacerdotal. Étant entré dans le lieu saint, avec son propre sang, il agit comme notre grand souverain sacrificateur, appliquant à notre âme tous les précieux résultats de son œuvre expiatoire. Il nous maintient ainsi dans la pleine et divine intégrité de la position où son sacrifice nous a introduits. Quel type admirable de la résurrection de Christ que celui qui nous est présenté dans l'oiseau vivant qu'on lâche dans les champs. Il n'était relâché qu'après la mort de son compagnon, car les deux oiseaux représentent un seul Christ, à deux moments de son œuvre, à sa mort et à sa résurrection. Cet oiseau vivant, s'élevant dans les cieux en portant sur ses ailes la marque de l'expiation accomplie, proclamait le grand fait que l'œuvre était finie, le fondement posé. Il en est de même relativement à notre Seigneur Jésus-Christ. Sa résurrection déclare le glorieux triomphe de la rédemption. Il a été ressuscité le 3e jour selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, verset 4. Il a été ressuscité pour notre justification. Romains 4, verset 25. Les Écritures m'assurent que Jésus a été cloué sur la croix, chargé de mes péchés, et elles m'assurent aussi qu'il est sorti du tombeau sans aucun de ses péchés sur lui. Et ce n'est pas tout. Elles m'assurent que tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ sont purifiés de tout péché, qu'il n'y a pas plus de colère ou de condamnation pour eux que pour lui. Ils sont en lui, un avec lui, acceptés en lui, vivifiés, ressuscités, assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Tel est le bienfaisant témoignage de la parole de Dieu. Voyez Romains 6, versets 6 à 11 et 8, versets 1 à 4, 2 Corinthiens 5, versets 21, Éphésiens 2, versets 5 et 6, Colossiens 2, versets 10 à 15, 1 Jean 4, verset 17. Du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope. Mais une autre vérité nous est présentée ici. Non seulement nous voyons notre entière délivrance de la culpabilité et de la condamnation, représentée par l'oiseau vivant relâché, mais nous voyons aussi notre entière délivrance de toutes les attractions de la terre et de toutes les influences de la nature. L'écarlate évoque les premières, tandis que le bois de cèdre et l'hysope représentent les secondes. La croix est la fin de toutes les gloires de ce monde. Dieu la présente comme telle, et le croyant la reconnaît comme telle. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. Galates 6, verset 14. Le bois de cèdre et l'hysope nous offrent, pour ainsi dire, les deux extrêmes du vaste domaine de la nature. Salomon parla sur les arbres depuis le cèdre qui est sur le Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. 1 Roi 4, verset 33. Tout ce que contient le monde est amené sous la puissance de la croix, en sorte que le croyant voit, dans la mort de Christ, la fin de toute sa culpabilité, la fin de toute la gloire terrestre et la fin de tout le système du monde, la vieille création tout entière. Et de quoi doit-il être occupé? De celui qui est l'antitype de cet oiseau vivant, aux plumes teintées de sang, qui s'élève vers les cieux. De ce Christ ressuscité monté au ciel, triomphant, glorifié, qui est entré dans les cieux en portant sur lui les marques de l'expiation accomplie. Il est l'objet de tout l'amour de Dieu. Il est le centre de la joie du ciel, le thème du chant des anges. Nous n'avons besoin d'aucune des gloires de la terre, d'aucune de ces choses attrayantes. Nous pouvons les voir mises de côté pour toujours avec nos péchés par la mort de Christ. Nous pouvons aisément nous passer de la terre et du monde, puisque nous avons reçu à leur place les richesses insondables du Christ. L'aspersion du sang sur le lépreux. Et il fera aspersion 7 fois sur celui qui doit être purifié de la lèpre, et il le purifiera, puis il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Verset 7. Beaucoup d'âmes sont éprouvées en s'imaginant ou en entendant affirmer qu'il s'agit de sentir, de réaliser leur salut. Or, l'aspersion du sang sur le lépreux était aussi indépendante de lui que l'effusion de ce sang. C'était l'œuvre d'un autre. Ce n'est pas que nous devions mépriser la communion, par le Saint-Esprit, avec tous les précieux résultats de l'œuvre de Christ pour nous. Loin de là, nous verrons bientôt quelle place lui est assignée dans les dispensations divines. Mais nous ne sommes pas sauvés par la réalisation des résultats de cette œuvre. L'évangile qui nous sauve, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Sans doute, il est heureux de réaliser cela. Quelqu'un qui a été sur le point de se noyer est heureux de réaliser qu'il est dans le bateau de sauvetage. Mais il est évident qu'il est sauvé par le bateau et non par sa réalisation. De même pour le pécheur qui croit au Seigneur Jésus. Il est sauvé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, non parce qu'il le réalise, mais parce que Dieu le dit. Voilà ce qui donne à l'âme une immense paix. J'ai affaire avec le simple témoignage de Dieu que rien ne saurait ébranler. Ce témoignage a rapport à l'œuvre même de Dieu. C'est lui-même qui a fait tout ce qui était nécessaire, afin que je sois déclaré net à ses yeux. Mon pardon ne dépend pas plus de ma réalisation que d'aucune œuvre de justice que j'ai faite. Il ne dépend pas plus de mes œuvres de justice que de mes crimes. En un mot, il dépend exclusivement de la mort et de la résurrection de Christ. C'est selon les Écritures. Le lépreux était déclaré net sur le même principe que l'oiseau vivant était relâché. Le même sang qui teignait les plumes de cet oiseau vivant était aspergé sur le lépreux. C'était là un règlement parfait de toute l'affaire. Et cela, d'une manière tout à fait indépendante du lépreux, de ses pensées, de ses sentiments ou de sa réalisation. Notre Seigneur Jésus-Christ est entré au ciel et a posé sur le trône de Dieu l'éternelle attestation d'une œuvre accomplie, en vertu de laquelle le croyant y entre aussi. Christ, ressuscité, est l'objet qui remplit le cœur de Dieu, et c'est en lui qu'il voit tout croyant. Il habitera 7 jours hors de sa tente. Et celui qui doit être purifié lavera ses vêtements et rasera tout son poil et se lavera dans l'eau, et il sera pur. Et après cela, il entrera dans le camp, et il habitera 7 jours hors de sa tente. Verset 8. Le lépreux ayant été déclaré net doit se laver, laver ses vêtements et raser tout son poil. Cela étant fait, il peut prendre sa place dans le camp, le lieu reconnu de relation publique avec le Dieu d'Israël, dont la présence dans le camp rendait l'expulsion du lépreux nécessaire. Le sang ayant été appliqué dans sa vertu expiatoire, il y a le lavage d'eau, qui exprime l'action de la parole sur le caractère, les habitudes, la conduite, pour rendre l'individu moralement et pratiquement propre, non seulement aux yeux de Dieu mais aussi à ceux de la congrégation, à occuper une place dans l'assemblée publique. Mais il faut observer que l'homme, quoique aspergé de sang et lavé d'eau, et par conséquent ayant droit à une place dans l'assemblée publique, n'avait pas la permission d'entrer encore dans sa propre tente. Il ne pouvait pas entrer dans la pleine jouissance des privilèges particuliers et personnels qui lui appartenaient. Bien que connaissant la rédemption par le moyen du sang de Christ, le croyant doit être amené, par la puissance de l'Esprit, à une connaissance de sa place spéciale, de sa position et de ses privilèges en Christ, à une communion entière et intelligente avec Christ. Il y a beaucoup d'âmes qui, tout en reconnaissant le sang de Christ comme la seule base de pardon et la parole de Dieu comme ce qui doit purifier et régler leur marche, sont néanmoins loin d'être, par la puissance du Saint-Esprit, en communion avec la valeur et l'excellence de celui dont le sang a ôté leurs péchés et dont la parole doit purifier leur vie pratique. Il est parfaitement vrai que tous les croyants sont en Christ, que les privilèges les plus élevés leur appartiennent et qu'ils ont le Saint-Esprit comme puissance de communion. Mais il n'y a pas chez tous un entier éloignement de tout ce qui tient à la chair. Or, celui-ci est absolument essentiel à la réalisation de la communion avec Christ, sous toutes les faces de son caractère et de son œuvre. En fait, cette dernière ne sera pleinement goûtée que le huitième jour, voir verset 10. Jour glorieux de la résurrection, quand nous connaîtrons comme nous avons été connus. Alors nous entrerons tous dans la puissance pleine et entière de la communion avec Christ. Cependant, nous pouvons l'anticiper individuellement dans la mesure où nous réalisons, par la foi et par l'énergie de l'Esprit qui demeure en nous, notre position comme étant mort et ressuscité avec Christ. Et il arrivera que, le septième jour, il rasera tout son poil, sa tête et sa barbe et ses sourcils. Il rasera tout son poil et il lavera ses vêtements et il lavera sa chair dans l'eau et il sera pur. Verset 9. Le lépreux était déjà pur aux yeux de Dieu, le premier jour, quand il était fait sur lui aspersion du sang par cette foi. Verset 7. Et cependant, il avait encore à se raser et à se laver le septième jour, afin d'être pur. Pourquoi ? Dans le premier cas, il était net au jugement de Dieu. Dans le second, il devait être net en pratique, à son jugement personnel et dans son caractère public. Il en est de même avec le croyant. Il est, en tant qu'un avec Christ, lavé, sanctifié et justifié, rendu agréable, accompli. 1 Corinthiens 6, verset 11, Éphésiens 1, verset 6, Colossiens 2, verset 10. Telle est sa position invariable devant Dieu. Il est aussi parfaitement sanctifié que justifié, car Christ est la mesure de l'un et de l'autre, selon la parole de Dieu. Mais ensuite, la réalisation de tout cela dans l'âme du croyant et la manifestation qu'il en fait dans sa marche et dans son témoignage ouvre un tout autre champ de pensée. C'est pourquoi il est dit, ayant donc ces promesses bien-aimées, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. C'est parce que Christ nous a purifiés par son sang précieux que nous sommes appelés à nous purifier en nous appliquant la parole par l'Esprit. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. C'est un fait accompli. Et quant à notre marche pratique, nous avons à nous tenir pour morts et à mortifier nos membres qui sont sur la terre. Romains 6, versets 6 et 11, Colossiens 3, verset 5. Le huitième jour et ses offrandes. Et le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut et une jeune brebis âgée d'un an, sans défaut, et 3/10 de fleurs de farine pétries à l'huile, en offrande de gâteau, et un log d'huile. Et le sacrificateur qui fait la purification placera l'homme qui doit être purifié, et ses choses, devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et le sacrificateur prendra l'un des agneaux, et le présentera comme sacrifice pour le délit, avec le log d'huile, et les tournoiera en offrant de tournoyer devant l'Éternel. Versets 10 et 12. Toute la série des offrandes est présentée ici, mais c'est la victime pour le délit qui est égorgée la première. Ayant tous péché contre Dieu, nous avons besoin de Christ comme de celui qui a expié nos offenses sur la croix. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 2, verset 24. Le premier aspect sur lequel Christ se présente aux pécheurs, c'est comme antitype de l'offrande pour le délit. Et le sacrificateur prendra du sang du sacrifice pour le délit, et le sacrificateur le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Verset 14. L'oreille, ce centre coupable qui a si souvent été un canal de communication pour la vanité, la folie et même l'impureté, doit être purifié par le sang. Par là, toute la culpabilité que j'ai contractée par ce membre est pardonnée selon l'estimation que Dieu fait du sang de Christ. La main droite, qui a été si fréquemment étendue pour commettre des actes répréhensibles, doit être nettoyée par le sang. Le pied, qui a si souvent couru dans un mauvais chemin, doit maintenant être nettoyé par le sang. Oui, tout. Tout est pardonné. Tout est effacé. Tout est oublié. Tout est jeté comme du plomb au fond de la mer. Mais Dieu ne pouvait pas se contenter de l'expiation des péchés par le sang de Christ. C'est déjà une grande chose, mais il y a quelque chose de plus grand encore. Et le sacrificateur prendra du log d'huile et en versera dans la paume de sa main gauche, à lui, le sacrificateur, et le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans sa paume gauche, et fera aspersion de l'huile avec son doigt, 7 fois, devant l'Éternel. Et du reste de l'huile qui sera dans sa paume, le sacrificateur en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit, sur le sang du sacrifice pour le délit. Et le reste de l'huile qui sera dans la paume du sacrificateur, il le mettra sur la tête de celui qui doit être purifié, et le sacrificateur fera propitiation pour lui devant l'Éternel. Versets 15 à 18. Ainsi, nos membres sont non seulement nettoyés par le sang de Christ, mais encore consacrés à Dieu dans la puissance de l'Esprit. L'œuvre de Dieu n'est pas seulement négative, elle est aussi positive. L'oreille ne doit plus être le canal pour communiquer la souillure, mais elle doit être prompte à écouter la voix du bon berger. La main ne doit plus être employée comme instrument d'injustice, mais elle doit être active pour des actes de justice, de grâce et de sainteté. Le pied ne doit plus marcher dans les sentiers de la folie, mais courir dans le chemin du dévouement à Christ. L'homme tout entier doit être consacré à Dieu par l'énergie du Saint-Esprit. Il est des plus intéressants de voir que l'huile est mise sur le sang du sacrifice pour le délit. Le sang de Christ est la base divine des opérations du Saint-Esprit. L'huile n'aurait pas pu être mise sur le lépreux avant que le sang de la victime pour le délit n'y eût été appliqué d'abord. Auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Éphésiens 1, verset 13. La divine exactitude du type éveille notre admiration. Et le sacrificateur offrira le sacrifice pour le péché et fera propitiation pour celui qui doit être purifié de son impureté. Verset 19. Nous avons ici un type de Christ non seulement comme celui qui a porté nos péchés, mais aussi comme celui qui a mis fin au péché, racine et rameau, comme celui qui a détruit tout le système du péché, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme offrande pour le délit, Christ a ôté toutes mes offenses. Comme offrande pour le péché, il a atteint la racine d'où provenaient ces offenses. Il a satisfait à tout. Mais je le connais d'abord comme offrande pour le délit, parce que c'est la conscience de mes péchés qui me trouble tout premièrement. Puis, en avançant, je découvre que tous ces péchés avaient une racine, un tronc, et je trouve en moi cette racine ou ce tronc. Mais mon Sauveur a pourvu à tous mes besoins. Et après, il égorgera l'Holocauste. Cette offrande nous présente l'aspect le plus élevé possible de la mort de Christ. C'est Christ s'offrant lui-même à Dieu, sans tache, sans rapport spécial ni avec le délit, ni avec le péché. C'est Christ marchant à la croix avec un dévouement volontaire, et là, s'offrant lui-même à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Et le sacrificateur offrira l'holocauste et le gâteau sur l'autel, et le sacrificateur fera propitiation pour celui qui doit être purifié, et il sera pur. Verset 20. L'offrande de gâteau représente l'homme Christ Jésus dans sa parfaite humanité. Dans le cas du lépreux purifié, elle est intimement liée à l'Holocauste. Et il en est de même dans l'expérience de tout pécheur sauvé. C'est lorsque nous savons que nos péchés sont pardonnés et que la racine ou le principe du péché est jugé que nous pouvons, selon notre mesure, par la puissance de l'Esprit, jouir de la communion avec Dieu au sujet de Christ, celui qui a vécu ici-bas une vie humaine parfaite, puis s'est offert lui-même à Dieu sans tache sur la croix. Ainsi, ces 4 classes d'offrandes sont placées devant nous dans un ordre divin. L'offrande pour le délit, le sacrifice pour le péché, l'holocauste et l'offrande de gâteau. Chacune montrant un aspect particulier de l'œuvre ou de la personne du Seigneur Jésus. Ici se termine le récit merveilleux des interventions de l'Éternel à l'égard du lépreux. Rien ne saurait être plus intéressant que d'observer les traces de la grâce divine sortant de l'enceinte sacrée du sanctuaire pour aller jusqu'à la place souillée où se tenait le lépreux, la tête nue, la barbe couverte et les vêtements déchirés. Dieu visitait le lépreux où il se trouvait, mais il ne le laissait pas là. Il s'avançait vers lui, tout prêt à accomplir une œuvre en vertu de laquelle il pouvait l'amener à une place plus élevée, à une communion plus intime que ce qu'il avait jamais connu auparavant. Sur le principe de cette œuvre, le lépreux était conduit, de son lieu de souillure et de solitude, jusqu'à la porte même de la tente d'assignation, la demeure des sacrificateurs, pour y jouir de privilèges sacerdotaux. Voir Exode 29, versets 20, 21 et 32. Comme tout cela nous rappelle le fils prodigue de Luc 15. Chez lui aussi, la lèpre avait travaillé et était montée à la surface. Il s'en était allé dans le pays éloigné de la souillure, où ses propres péchés et l'égoïsme des gens de l'endroit avaient créé la solitude autour de lui. Mais nous savons comment cela finit. Le prodigue trouva une place plus haute et goûta une communion plus élevée qu'il n'en avait jamais connue auparavant. Le veau gras n'avait jamais été tué pour lui auparavant. La plus belle robe ne lui avait jamais été mise auparavant. Et d'où cela venait-il? S'agissait-il de ses mérites? Oh non! Il s'agissait seulement de l'amour de son Père. Des versets 21 à 32, nous avons la loi touchant celui en qui il y avait une plaie de lèpre et dont la main n'a pas su atteindre ce qui était ordonné pour sa purification. Cela est relatif au sacrifice du huitième jour, et non pas aux deux oiseaux vivants et purs. En aucun cas on ne pouvait se dispenser de ces derniers, parce qu'ils représentaient la mort et la résurrection de Christ comme le seul fondement sur lequel Dieu peut recevoir un pécheur revenant à lui. Par contre, les sacrifices du huitième jour évoquent la communion de l'âme et peuvent être affectés par le degré de réalisation de celui qui les offre. Mais la grâce de Dieu se montre dans les paroles touchantes, selon ce que sa main pourra atteindre. Et les deux tourterelles confèrent aux pauvres les mêmes privilèges que les deux agneaux conféraient aux riches, puisque les unes et les autres représentaient le précieux sang de Christ. Nous sommes tous devant Dieu sur le principe de la mort et de la résurrection. Nous avons tous été également approchés, mais tous ne jouissent pas du même degré de communion. Tous ne réalisent pas au même degré la valeur de Christ dans les aspects de son œuvre. Le monde et la chair, avec leurs influences respectives, peuvent agir sur nous. L'esprit qui demeure en nous est attristé, et nous ne jouissons pas de Christ comme nous le pourrions. Si nous vivons selon nos cœurs naturels, nous ne pouvons nous nourrir de Christ. Si nous voulons nous nourrir habituellement de lui, il faut que nous renoncions à nous-mêmes, que nous nous jugions nous-mêmes, de sorte que nous puissions dire en vérité « Ce n'est plus moi qui vis ». Il ne s'agit pas du salut, mais de la communion de l'âme avec Dieu, de sa jouissance de Christ. Quant à cela, la plus grande mesure est mise à notre portée. Recherchons-la. La lèpre dans une maison. Nous terminerons cette section en touchant brièvement au sujet de la lèpre dans une maison. Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan que je vous donne en possession, si je mets une plaie de lèpre dans une maison du pays de votre possession, le sacrificateur commandera qu'on vide la maison avant que le sacrificateur entre pour voir la plaie, afin que tout ce qui est dans la maison ne soit pas rendu impur. Et après cela, le sacrificateur entrera pour voir la maison. Et il y regardera la plaie, et voici, la plaie est dans les murs de la maison, des creux verdâtres ou roussâtres, et ils paraissent plus enfoncés que la surface du mur. Alors le sacrificateur sortira de la maison, à l'entrée de la maison, et fera fermer la maison pendant 7 jours. Versets 34 et 36 à 38. Un cas de lèpre dans une personne ou dans un vêtement pouvait se rencontrer au désert. Mais quant à ce qui concernait une maison, il fallait nécessairement que ce soit au pays de Canaan. En considérant une maison comme le type d'une assemblée, nous trouvons ici des principes importants sur la méthode divine de traiter le mal ou les symptômes du mal dans un rassemblement de croyants. Nous remarquons le même calme et la même parfaite patience à l'égard de la maison qu'à l'égard de la personne ou du vêtement. Il n'y avait ni hâte ni indifférence. L'homme à qui appartenait la maison ne devait traiter avec insouciance aucun symptôme suspect qui se montrait dans les parois, et il ne pouvait pas prononcer lui-même un jugement sur ces symptômes. C'était l'affaire du sacrificateur d'examiner et de juger. Un temps complet devait s'écouler avant qu'on puisse arriver à une décision. Il se pouvait que les symptômes ne soient que superficiels, ce qui n'exigeait aucune action quelconque. Et le septième jour, le sacrificateur retournera et regardera, et voici la plaie s'est étendue dans les murs de la maison. Alors le sacrificateur commandera qu'on arrache les pierres dans lesquelles est la plaie, et qu'on les jette hors de la ville, dans un lieu impur. Versets 39 et 40. La maison tout entière ne devait pas être condamnée. Il fallait d'abord essayer d'arracher les pierres lépreuses. Et si la plaie revient et fait éruption dans la maison après qu'on aura arraché les pierres, et après qu'on aura raclé la maison, et après qu'on l'aura enduite, le sacrificateur entrera et regardera. Et voici, la plaie s'est étendue dans la maison. C'est une lèpre rongeante dans la maison, elle est impure. Alors on démolira la maison, ses pierres et son bois, avec tout l'enduit de la maison, et on les transportera hors de la ville, dans un lieu impur. Versets 43 à 45. Si le cas était désespéré, le mal incurable, tout le bâtiment était démoli. Et celui qui sera entré dans la maison, pendant tous les jours où elle aura été fermée, sera impur jusqu'au soir. Et celui qui aura couché dans la maison, lavera ses vêtements, et celui qui aura mangé dans la maison, lavera ses vêtements. Versets 46 et 47. C'est une vérité bien sérieuse. Le contact souille. Souvenons-nous-en. C'est un principe amplement inculqué dans la dispensation de la loi, et il est encore applicable maintenant. Mais si le sacrificateur entre et regarde, et voici la plaie ne s'est pas étendue dans la maison après que la maison a été enduite, le sacrificateur déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Verset 48. L'enlèvement des pierres souillées avait arrêté les progrès du mal. La maison ne devait plus être considérée comme sous le jugement. Purifiée par l'application du sang, elle était de nouveau propre à être habitée. Jugement du mal dans une assemblée. Venons-en maintenant à l'application morale de tout ceci. Elle est solennelle et pratique. Prenez par exemple l'assemblée à Corinthe. C'était une maison spirituelle composée de pierres spirituelles. Mais hélas, l'œil de l'apôtre discernait sur ses murs certains symptômes des plus suspects. Y était-il indifférent? Assurément non. Il était trop rempli de l'esprit du maître de la maison pour excuser cet état fâcheux. Mais il n'était pas plus précipité qu'indifférent. Il commanda qu'on arrache la pierre lépreuse et qu'on racle à fond la maison. Puis, ayant agi avec cette fidélité, il attendit patiemment le résultat. Et quel fut-il? Tout ce que son cœur pouvait désirer. Mais celui qui console ceux qui sont abaissés, Dieu, nous a consolés par la venue de Tite, et non seulement par sa venue, mais aussi par la consolation dont il a été rempli à votre sujet, en nous racontant votre grand désir, vos larmes, votre affection ardente envers moi, de sorte que je me suis d'autant plus réjoui. À tous égards, vous avez montré que vous êtes pur dans l'affaire. Comparez 1 Corinthiens 5 avec 2 Corinthiens 7, versets 6 et 11. Les soins et le zèle de l'apôtre étaient dûment récompensés. La plaie était arrêtée, et l'assemblée délivrée de l'influence corruptrice du mal moral non jugé. Prenez un autre sérieux exemple. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Pergame, écrit : voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. Et tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin, qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles, et qu'ils commissent la fornication. Ainsi tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes pareillement. Repens-toi donc, autrement je viens à toi promptement, et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Apocalypse 2, versets 12 à 16. Le divin sacrificateur se tient ici dans une attitude judiciaire vis-à-vis de sa maison à Pergame. Il ne pouvait demeurer indifférent à l'égard de symptômes aussi alarmants, mais il use de grâce et de patience et leur donne le temps de se repentir. Si les avertissements, les réprimandes et la discipline ne servent à rien, alors le jugement devra suivre son cours. Ces choses sont pleines d'instructions pratiques quant à la vie de l'assemblée. les lettres aux sept églises d'Asie offrent diverses illustrations de la maison sous le jugement de celui dont les yeux scrutateurs sont comme une flamme de feu. Apocalypse 1, verset 14. Nous devrions les étudier soigneusement et avec prière. Nous ne devrions jamais nous asseoir à notre aise aussi longtemps qu'une chose de nature suspecte se montre dans l'assemblée. Nous pouvons être tentés de dire « Cela ne me regarde pas ». Mais c'est le devoir de tous ceux qui aiment le maître de la maison d'avoir un soin jaloux de la pureté de cette maison. Et si nous reculons devant l'exercice de ce devoir, ce ne sera pas à notre honneur dans la journée du Seigneur.